Podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à toutes et à tous. L'histoire n'est que l'incalculable impact des circonstances sur les utopies et les rêves. C'est signé Mariano Picon Salas, écrivain vénézuélien du siècle dernier, et c'est précisément au Venezuela, pays à l'histoire mouvementée, que nous allons nous intéresser ce matin. Sur place, à Caracas, je dis buenos dias à Laurent, Laurent Labrique.
Buenos dias, bonjour. Un plaisir de pouvoir assister à cette émission, même si c'est à quelques milliers de kilomètres.
À 7791 kilomètres de nous, Laurent, Lorenzo, hein, j'imagine que c'est ainsi qu'on vous appelle depuis 22 ans, plus que la moitié de votre âge.
Ça fait. Je suis un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'ai deux personnalités, une plus belge, une plus vénézuélienne. Et effectivement, ici, on m'appelle plus Lorenzo que Laurent.
Alors, vous travaillez au Venezuela pour le compte de l'ambassade du Canada, où vous avez postulé sur les conseils d'une amie costaricaine qui vivait au Panama alors que vous étiez au Mexique pour Médecins Sans Frontières. C'est incroyable. C'est une histoire tout à fait internationale qui décrit bien votre personnage. Vous êtes en duplex avec notre invité, Osvaldo Parise, qui est dans nos studios de la première à Bruxelles. Osvaldo, bonjour.
Bonjour à toi, Adrien. Merci pour m'avoir invité et avoir aussi cet invité, Lorenzo, qui se trouve à Venezuela. Je m'imagine déjà qu'il a déjà commis las arepas en el desayuno.
Si, j'ai déjà mangé bien les... Il y a commis las arepas, j'ai déjà bien mangé les arepas, un peu trop d'ailleurs, ce qui fait que je suis un peu le ventre bedonnant.
D'accord, mais lâchez-vous, nous on va déjeuner aussi jusqu'à 10h avec vous. Votre vie, Osvaldo, est un roman comme celle de Lorenzo. Vous êtes né à Caracas.
Si, à Caracas, je suis né à Caracas, à la parroquia de Bellomonte.
Né d'un père italien, vous avez grandi en Amérique latine et dans le sud de l'Europe, où vous êtes devenu ingénieur électronicien, oui, orfèvre, réparateur de montres, maçon, menuisier, plombier, électricien et surtout sculpteur. Vous avez même réalisé le buste d'Albert II.
Oui, c'est ça. Justement, dès le début, quand je suis arrivé en Belgique comme Lorenzo, ils se sont vénézuéliens, je me sens belge. Et pour remercier à la Belgique, j'ai voulu faire le buste au roi de la Belgique.
Et vous lui avez remis en main propre et ce buste trône au Palais Royal. Je l'ai admiré, Catherine Tonero aussi, puisque vous avez été décorée par le fils d'Albert II, hein, Catherine. Le roi Philippe, vous êtes lauréate de la Belle Odyssée, vous êtes devenue Trotamunda, journaliste et globe-trotteuse. Le Venezuela est un pays fascinant.
Et oui, lorsqu'il y débarque en 1498, Christophe Colomb pense que c'est une île. Et il l'appelle Isla de Gracia, île de grâce, avant donc d'opter pour terre de grâce.
Oui, alors une terre mouvementée hein, aujourd'hui, avec pas mal de problèmes politiques et économiques. Nous en parlerons évidemment ce matin avec vous et avec nos Belges du bout du monde.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première... Les Belges du bout du monde.
Mais avant toute chose, Catherine, une petite leçon d'histoire. On appelle aussi le Venezuela la République bolivarienne.
Bien oui, en référence à Simon Bolivar, évidemment le père de l'indépendance du pays et héros du continent latino-américain. On est donc ici tout au nord de l'Amérique du Sud. Le Venezuela est bordé par la mer des Caraïbes. Il partage ses frontières avec la Colombie à l'ouest, le géant brésilien au sud et l'état de Guyana à l'est. Sa géographie est d'une très grande diversité entre les longues plages de sable fin, les plaines du centre, la pointe septentrionale de la cordillère des Andes et qui culmine à 5000 mètres et la vallée de Caracas, la capitale. C'est au Venezuela qu'on trouve les chutes d'eau les plus hautes du monde, les chutes de Salto Ángel, hautes de 979 mètres. La plupart des Vénézuéliens sont métis, ils parlent l'espagnol, évidemment langue nationale. Il existe aussi une quarantaine de langues autochtones.
Et après une courte colonisation allemande, c'est la colonisation révolution espagnole qui a duré près de 3 siècles.
Oui, le Venezuela se proclame indépendant en 1811, mais les troupes espagnoles reprennent le contrôle du pays jusqu'en 1813, année où Simon Bolivar arrive en vainqueur à Caracas. Le pays acquiert son indépendance définitive en 1821. Il se détachera ensuite de la Grande Colombie, territoire indépendant formé un temps avec la Colombie, l'Équateur et le Panama. Après avoir connu une succession de gouvernements et dictatures militaires, le Venezuela entame dès 58 un processus démocratique qui assure au pays une relative stabilité politique jusqu'à la tentative de coup d'État d'Hugo Chavez en 1992. Le colonel qui accède finalement au pouvoir par les urnes en 1998 et se maintiendra à la tête du pays jusqu'à sa mort d'un cancer en 2013.
Alors Lorenzo Labrique, vous êtes arrivé sur place juste après le coup d'État manqué de Chavez en 1993.
Oui, effectivement, c'était, je me souviens, en 1993, c'était d'ailleurs aussi une année d'élection présidentielle. Et bon, je vais être sincère, c'est à partir de l'arrivée de Hugo Chavez que je me suis beaucoup intéressé à la politique du Venezuela pour en faire aujourd'hui mon métier. Donc,
ouais. Et vous étiez tout jeune à l'époque, comme quoi les voyages forment vraiment la jeunesse. Vous aviez 17 ans, je crois que c'était dans le cadre d'un échange d'étudiants.
Effectivement, c'est dans le cadre d'une occasion qui s'appelle AFS. Je suis arrivé ici au Venezuela dans une ville qui s'appelle Acarigua, qui n'est pas loin d'ailleurs d'où se trouve la ville de votre invité Osvaldo. Mais c'était une révélation pour moi, ça a été un changement. C'était vraiment une petite révolution, pour reprendre un terme qui est à la mode ici au Venezuela, qui a changé au fait tout le reste de ma vie, qui continue évidemment d'avoir une grosse influence qui me caractérise moi aujourd'hui.
Ouais, ça a été déterminant pour le choix de vos études, la politique et les droits de l'homme. Osvaldo, ben vous venez justement de ce coin-là, vous?
Ben justement, c'est pas loin de Barquisimeto. À Carigua, il se trouve à une demi-heure de Barquisimeto. Et c'était une ville, pratiquement, il y a la cultivation de café, du riz et de tout comme ça. C'est comme on dit, un peu comme les Llanos.
Ouais. Alors, vous avez grandi, Osvaldo, dans une famille d'artistes. Votre papa est célèbre, entre autres, pour avoir réalisé le buste de Robert Schumann.
Oui, ça c'est pour moi un grand honneur et fierté que papa il a réalisé le buste de Robert Schumann. Lui, c'était le père idéaliste créateur de la Union européenne. C'est grâce à lui cette idée que maintenant ça existe la Union européenne.
Oui, et votre papa italien, européen, exilé d'abord au Venezuela, où il a été appelé par le président Marcos Pérez Jiménez. C'est lui qui a fait venir votre papa.
Si, il était appelé pour faire des travaux, des œuvres d'art à Venezuela. Aussi, encore une fois, à l'honneur de que le président il a été à chercher à papa à l'aéroport en Cadillac, surveillé, protégé et aussi cocolé, comme on dit, muy carinosamente.
Oui, oui, oui. Comment traduirait Laurent par?
Avec beaucoup d'affection.
Oui, oui, oui. Affection quand même très surveillée, parce que votre papa est tombé amoureux d'une photo, c'est assez incroyable comme histoire, d'une photo de Miss Italie qu'il a fini par épouser. Pas la photo, mais la Miss.
C'est ça. Il a vu une revue à l'époque qui se trouvait là à Venezuela. Et il a eu un coup de foudre de ma maman. Il a écrit à la famille à Turin. Je vous ai fait connaissance avec votre fille pour le fiançage et la marier.
Oui, alors il n'a pas pu aller se marier sur place parce que le dictateur n'a pas voulu qu'il ressorte du pays. Donc il s'est marié par procuration.
Ben en fait, papa, il a eu la permission d'y aller les voir pour faire les fiançailles, oui. Mais pas pour rester pour se marier. Il devait rentrer à finir le travail parce qu'à l'époque, Pérez Jiménez, c'était vraiment un dictateur. Les horaires, ils sont là et les dates et les délais sont là. Tu dois accomplir le travail.
D'accord, mais il a quand même pu voir votre maman avant de l'épouser.
C'est ça.
Ah, quand même. Alors, à 20 ans, votre maman débarque au Venezuela. C'était fin des années 50, 1960 peut-être.
60,
c'est ouais, ça. Oui, sans connaître un mot d'espagnol.
Même pas une seule. Buenos días.
La suite de l'histoire, on va la raconter après avoir écouté un des succès de cet été sur la première. C'est Polo et Pan, et ça parle d'ombre, de forêt amazonienne, de Venezuela un petit peu aussi. C'est Canopée.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Prenons racine dans les bois et dans la canopée qui recouvre le Venezuela, un pays que nous redécouvrons ce dimanche 11 septembre avec l'analyste politique Lorenzo Labrique, l'artiste polymorphe Osvaldo Parisé et notre chroniqueuse bourlingueuse Catherine Tonero.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Le titre de libérateur n'est-il pas plus glorieux que celui de souverain, écrivait en 1830 Simon Bolivar, le père de la nation vénézuélienne. Et 168 ans plus tard, Catherine, c'est le président Hugo Chavez qui va profondément transformer le Venezuela.
Oui, Hugo Chavez qui revendiquait un socialisme du 21e siècle, un idéal de démocratie participative dans le cadre d'un État autoritaire. État qui va mettre en place une politique de redistribution ambitieuse basée sur ses importants revenus pétroliers. Les programmes sociaux favorisent l'accès à la santé, au logement, à l'éducation, à l'alimentation, à l'emploi. Et les effets sont là. En 5 ans, la pauvreté recule de 30% au Venezuela. À la mort d'Hugo Chavez, son dauphin désigné Nicolas Maduro devient président par intérim. Il remporte l'élection présidentielle de 2013 de justesse. L'opposition conteste vivement les résultats. De violentes manifestations éclatent et font une dizaine de morts. L'instabilité politique et sociale ne feront que se renforcer à partir de là. De nouvelles violences se soldent par 43 morts au printemps 2014 lorsque la population descend dans les rues pour protester cette fois contre les pénuries de produits de base.
Oui, une instabilité liée à la situation économique du pays.
Oui, le pays jouit d'énormes ressources naturelles, au premier rang desquelles le pétrole. Le Venezuela dispose des plus grandes réserves prouvées au monde, et qui en font une puissance énergétique majeure évidemment, mais la baisse des cours du brut depuis 2 ans va révéler toute la faiblesse d'une économie très dépendante de la rente pétrolière. Faute de devises pour les importations, la pénurie va se généraliser aux produits alimentaires, médicaments, matières premières. Les conditions de vie de la population se dégradent et c'est l'origine de la crise économique qui secoue actuellement le pays. Il faut y ajouter une crise politique. Depuis la victoire de l'opposition aux dernières élections législatives, c'était en décembre 2015, le nouveau Parlement veut tenir un référendum pour forcer le départ du président Maduro et organiser de nouvelles élections. On y reviendra.
Alors, aux premières loges pour commenter cette crise qu'il suit en direct, hein, sur place, notre Belge du bout du monde, Laurent Labrique. Quelle est l'actualité en ce 11 septembre au Venezuela? Là, ça va toujours aussi mal, Laurent?
Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que le pays actuellement, comme l'a dit Catherine, traverse une crise qui n'est pas... on ne voit toujours pas le bout du tunnel à cette crise-là. La crise sociale, économique et politique sont bien des réalités qui frappent l'immense majorité de la population. Je crois que la crise n'est pas simplement due à la baisse des cours du pétrole, c'est au fait aussi la crise d'un modèle qui a été, je veux dire, sur des dépenses sans aucun contrôle, qui s'est basée sur une corruption absolument généralisée et avec aucune épargne pour les générations futures, ce qui fait qu'effectivement, quand les cours du pétrole descendent et quand on a tué la production nationale, comme ça a été le cas, parce que jusqu'à très peu, importer coûtait moins cher que produire sur place, ben voilà, on se retrouve avec des pénuries absolument, assez incroyables dans un pays pétrolier. Passe encore la nourriture parce qu'on peut encore la trouver, même si c'est parfois pour beaucoup à des prix exorbitants, hors de contrôle pour l'immense majorité de la population. Mais là où ça devient plus grave, c'est que ça touche aussi les produits, ça a été si bien dit, les médicaments. Et là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de solutions de rechange. Donc, l'opacité sur l'information fait qu'aujourd'hui, on n'évalue pas vraiment la grandeur de cette crise au Venezuela, en tout cas à l'étranger.
Ouais, son ampleur, et vous êtes bien là pour la mesurer depuis 22 ans. Hein, vous avez vu le niveau de vie, j'imagine, se dégrader depuis votre arrivée en 1993, 23 ans même maintenant sur place. Vous avez été témoin aussi de nombreuses violences politiques et policières. Vous vous êtes même fait expulser du pays, Laurent?
Oui, oui. Dans le cadre justement de mon travail, on va dire qu'il y a certaines autorités qui demandent de l'argent et en arrivant à l'aéroport de Caracas, on a arraché la page de mon passeport et puis on m'a expulsé manu militari. À l'époque, je venais du Canada, donc en plein hiver, j'étais vêtu comme si j'étais en plein été et on m'a renvoyé au Canada comme ça, sans valise. Bon, ça a pu s'arranger. Et puis après, par la suite, En voulant sortir du Venezuela, on m'a empêché de partir. Enfin bon, c'est toutes des aventures dont on se passerait bien, mais bon, ça enrichit, on va dire, l'être. Alors on a essayé de me racketter. Enfin, j'ai la fierté aujourd'hui de ne pas avoir corrompu les autorités jusqu'à présent pour obtenir, je veux dire, un papier ou l'autre, même si parfois, je vais être sincère avec vous, la tentation est bien là. Mais bon, on contribuerait plus au problème qu'à la solution en faisant ça.
Osvaldo, vous êtes admiratif hein, devant le parcours de notre Belge du bout du monde, dans votre pays natal, le Venezuela.
Pour lui, c'était des expériences, je dirais, Lorenzo Indiana Jones.
Oui, il retient le positif. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Il le prend comme ça, Lorenzo. Et vous êtes toujours resté contre vents et marées, malgré ça, malgré les tentatives d'intimidation, malgré les expulsions. Vous êtes toujours revenu. Donc, il y a quelque chose qui vous retient au Venezuela, Laurent. Vous n'êtes pas maso. Si vous y êtes encore, c'est par plaisir, par passion.
C'est marrant que vous dites ça parce que j'étais en Belgique ici au mois de juillet et il y en a plus d'un qui me l'ont dit parce que c'est assez marrant de voir actuellement les Vénézuéliens font, je vais dire, tout ce qui est possible pour essayer de sortir du pays alors que moi, qui ai la possibilité de rentrer, bah, je viens ici m'installer. Mais outre l'actualité qui est effectivement la réalité sociale, politique, je vais même dire au niveau de la sécurité quand même, qui souvent est le gros problème, le Venezuela est un pays attachant. Une fois qu'on y est, on sait, comme on dit, qui s'y frotte s'y pique. Et je dois avouer que c'est un pays qui est dans mon cœur, qui fait partie de moi. J'ai toujours encore de l'espoir que les choses puissent s'améliorer. Malgré tout ça, je m'y sens bien. Et puis surtout aussi, je vais être sincère avec vous, j'ai quand même une fille qui est à la fois belge, mais qui est aussi vénézuélienne. Et bon, ça reste quand même ma principale motivation, c'est d'être à côté d'elle.
Bah oui, évidemment, ça c'est essentiel. Je comprends que vous soyez là pour elle aussi. Elle va à l'école à Caracas?
Oui, effectivement, elle va à l'école. Voilà, elle a intégré, elle parle français, elle a que 5 ans. Et je dois avouer que c'est un grand plaisir malgré tout. Je pense que l'enfance, ici, à cet âge-là, peut être beaucoup plus intéressante qu'en Belgique, effectivement, parce qu'on peut sortir, il y a des activités toujours à l'extérieur, beaucoup de relations sociales pour les enfants. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font pour les enfants, et je pense que c'est quelque chose aussi à valoriser de manière positive.
Ouais, et c'est bien de vous entendre, parce que vous démontez les préjugés. Hein. On se dit, tiens, un enfant là-bas, ça doit être invivable. Et vous nous expliquez, vous nous prouvez le contraire. Vous, Osvaldo, même si physiquement, vous vivez chez nous, votre cœur, il est toujours là-bas, au Venezuela?
Ben, c'est tout à fait comme ça. C'est difficile d'oublier ma jeunesse, ma adolescence que j'ai passée là-bas. Et comme je ressens c'est ce que sent Lorenzo, parce que malgré tout, toute la situation comme il est à Venezuela, tant que vous entrez dans ce pays et vous êtes touché pour la Venezuela, c'est la magie. Vous ne voulez plus revenir par ici. En plus que malgré tout, tous les dangers, tout ce qu'il y a maintenant au Venezuela, lui se sent là en liberté plus que propre ici en Belgique.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Peut-être que c'est ça aussi la liberté.
Oui.
Oui, oui, oui. Vous êtes né en 1962 et à l'âge, comment s'appelle votre fille Lorenzo?
Elle s'appelle Eva Maria. Eva Maria.
Alors, à l'âge d'Eva Maria, quand vous aviez 5 ans, vous avez quitté le Venezuela pour l'Italie. C'était le 29 juillet 1967. Je cite la date parce que pour les Vénézuéliens, c'est une date aussi importante que le 11 septembre, par exemple, pour le reste du monde. Le 29 juillet 1967, il y a eu une chose incroyable et terrible à Caracas.
C'est justement, on a subi le tremblement de terre. C'était le terremoto catastrophe qu'on a toujours. J'y restais aujourd'hui touché, traumatisé. Je suis un sismographe avec 2 pieds.
Oui.
Tant que je sens un tremblement, tout de suite, je suis en alerte.
Et vous avez passé 3 jours réfugié dans une voiture pour échapper à ce tremblement de terre?
Oui, on devait dormir dans une voiture pour être assuré. On avait peur, juste qu'on pouvait prendre les bateaux pour la partance vers l'Italie.
Alors tout petit, à l'âge d'Eva Maria, vous avez travaillé dans l'atelier de votre papa. C'est comme ça que vous êtes devenu artiste?
Exactement, en regardant papa à l'âge de 8 ans, j'ai toujours accompagné papa et je regardais comment il faisait les sculptures et comment il transformait la terre glaise en devenant des bustes, des statues et tout ça. Et pour moi, c'était quelque chose d'incroyable que je voyais dans mes yeux. Et c'est là qu'il a commencé à entrer l'art.
Ouais, votre papa qui a sculpté Gandhi, entre autres, qui a sculpté Schumann, qui a sculpté beaucoup de personnalités. Comme vous d'ailleurs, on a mis vos œuvres en ligne sur lapremière.be. Allez sur notre site ou sur la page Facebook des Belges du bout du monde et vous verrez quelques-unes des œuvres d'Osvaldo Parisé. Dans un instant, je vais vous parler des trophées des Belges du bout du monde. Si, comme Osvaldo, vous développez vos talents loin de chez vous, eh bien, ces trophées sont faits pour vous.
9h-10h sur la première.
Les Belges du bout du monde.
Avec Adrien Jovenot.
Récompenser celles et ceux qui participent à la renommée de notre pays à l'étranger en y travaillant et en s'investissant dans des projets novateurs et émergents, c'est l'objectif des trophées des Belges du bout du monde. Ces expats ont aussi le mérite d'agrandir les horizons de notre petit pays et d'offrir une lueur d'espoir et des exemples concrets de success story aux jeunes qui se débattent souvent chez nous dans l'impasse du sous-emploi. Alors nous allons récompenser ces entrepreneurs dans 5 catégories différentes: culture, art de vivre, solidarité, économie et nouvelles technologies. Alors, où que vous viviez à l'étranger, si vous êtes investi dans un de ces 5 domaines, ces trophées des Belges du bout du monde sont faits pour vous. Toutes les infos sont en ligne sur lapremière.be.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Nous sommes ce matin avec des Belges bourrés de talent, l'artiste plasticien Osvaldo Parisé et le conseiller diplomatique, je peux dire ça, Lorenzo Labrique, né en Belgique et qui travaille au Venezuela. C'est quoi précisément votre job, Lorenzo ?
Bah écoutez, effectivement, c'est un peu être conseiller pour le gouvernement du Canada ici au Venezuela.
Alors Osvaldo, vous avez fait le chemin inverse. Vous êtes né là-bas, au Venezuela, et vous vivez chez nous depuis l'an 2000. Alors avant d'arriver en Belgique, vous viviez dans un parc national, un parc naturel.
Pratiquement, oui. On habitait à Barquisimeto. C'était à 10 minutes de la ville de Barquisimeto. C'était appelé El Manzano.
Alors, c'est comique parce que votre adresse mail, c'est comme ça qu'on a communiqué, vous et moi, avant cette émission, c'est El Manzano 2000. Donc, vous avez gardé l'endroit où vous vivez, El Manzano, et vous avez rajouté l'année où vous l'avez quitté.
Exactement, parce que c'était triste pour nous et en même temps, c'était quelque chose de différent. On venait connaître un pays différent. Et ça, la Belgique, c'était tout quelque chose à découvrir sans savoir même pas une parole en français.
Oui. Alors aujourd'hui, on découvre votre pays natal, le Venezuela. Pour ceux qui nous rejoindraient à présent, après la grasse mat du dimanche, voici le portrait de votre pays natal, réalisé en son, en musique et en parole par Loïc Péchard.
Le Venezuela, un pays situé en Amérique latine dont la capitale est Caracas, abrite en son territoire une population de 30 millions d'habitants.
Viva Venezuela!
Viva Venezuela!
La colonisation, l'esclavage, les guerres d'indépendance, les dictatures, les crises monétaires. De cet héritage s'est construit une culture vibrante qui s'exprime au travers de fêtes comme celle du carnaval, de Corpus Christi, le fleuve Orénoque est le troisième plus long fleuve d'Amérique latine après l'Amazone et le Rio Paraná. Ces îles au large, ces récifs coralliens ou encore ces plages de sable fin.
Sur la plage abandonnée,
c'est la siesta dans un hamac, un cigare en bouche et le rhum à la main.
Rum and Coca-Cola.
Mais tout n'est pas rose dans ce pays.
Le Venezuela est devenu en un rien de temps le pays le plus pauvre du monde, selon l'indicateur Bloomberg. La moitié des 30 millions d'habitants vit désormais sous le seuil de pauvreté. C'est 2 fois plus qu'il y a 6 ans. Le pays manque de tout, savon, aliments, médicaments.
L'État contrôle tout, notamment le cours de la monnaie, ce qui amène à une inflation démesurée. C'est comme ça que le Venezuela est le 3e pays où le coût de la vie est le plus élevé derrière la Suisse et la Norvège. Alors que c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Les produits de première nécessité sont un problème pour la population, car elle n'arrive pas à se les payer. L'État est endetté et au bord de la cessation de paiement.
Pourtant, le pays possède les plus grandes réserves de pétrole au monde devant l'Arabie Saoudite. Cette situation est paradoxale. Le pays est assis sur une mine d'or, mais son économie va très mal. La corruption bat son plein. La violence est omniprésente. Il est impossible d'exprimer son désaccord face au gouvernement. Après sa mort, l'ancien président Hugo Chavez a toujours une place dans le pays, démontrant l'importance des idées de son gouvernement. Il est partout, sur les panneaux publicitaires, les autoroutes et sur les murs. Il est toujours représenté sur des grandes fresques.
Viva Chavez!
Thank you, Venezuela.
À partir du moment où Chavez arrive au pouvoir, on a la légalisation des médias associatifs.
Des initiatives et des projets existent pour dynamiser les choses. Elles proviennent parfois de l'extérieur du pays. Thierry Deron, un Tournaisien d'origine, a fondé au Venezuela une école populaire de cinéma et de télévision qui s'inscrit dans une démarche d'éducation permanente.
Pour nous, l'école de cinéma, là, c'était une façon de donner à des secteurs sociaux en lutte l'outil audiovisuel, à créer une première coordination de télévision associative, laquelle a pu alors dialoguer avec le nouveau gouvernement et créer ce règlement légal, et créer cette nouvelle figure de médias associatifs qui maintenant a atteint entre 300 et 400 médias légalisés avec une fréquence 24 heures sur 24 pendant 5 ans.
Photos sonores du Venezuela réalisées par Loïc Péchard avec un zoom à la fin sur Thierry Deron, un autre Belge du bout du monde qui vit là-bas depuis une dizaine d'années. Vous connaissez, vous en avez entendu parler, Laurent Labrique ?
Oui, j'en ai entendu parler depuis d'ailleurs très longtemps, depuis le début du gouvernement de Chavez, où effectivement Thierry Deron a été par le travail social qu'il a effectué, a été un fervent défenseur du président. Moi, j'étais un peu plus critique. Donc, on a eu quelques altercations tout à fait, en tout bien, tout honneur, par écrit sur certains sites à l'époque. Mais depuis, vous savez, ça fait partie de la démocratie. C'est justement ça qui fait que la confrontation des idées enrichit ceux qui peuvent lire ces articles ou qui peuvent nous écouter.
Ouais, et puis il vaut mieux se battre avec des idées qu'avec des armes. Hein. C'est toujours mieux ce débat démocratique. Hein. Finalement, il a créé là-bas une école populaire de cinéma et de télé avec pas mal de jeunes. Et on a mis en ligne sur la première.be le résultat de son travail. Vous habitez, vous, Osvaldo, dans notre pays, dans le Far West, hein, du côté de Moucron.
C'est tellement une ville spéciale que vous allez aller à Moucron et vous ne payez même pas le parking. On ne paye pas, c'est gratuit.
Alors Thomas Thurion, bonjour. Vous êtes journaliste à l'Avenir. Ça fait une dizaine d'années que vous suivez cet artiste.
Dès son premier pas sur la ville de Moucron, donc en l'an 2000, donc ça fait même 16 ans cette année.
Vous l'avez même emmené, ça c'est incroyable cette anecdote, Osvaldo, à l'Élysée, parce que vous avez fait le portrait de Sarkozy, le buste. Et quand vous êtes allé, racontez-nous l'histoire, porter le buste à Sarkozy, vous ne vouliez pas aller tout seul.
Non, parce que justement, toujours j'ai des contacts avec Thomas, et ça fait partie comme de la famille. Et justement, quand l'Élysée a dit, vous devez venir toute seule, vous ne pouvez pas porter notre personne. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je ne vais pas porter de personne, je vais porter mon cousin, Thomas Tourillon. Je me suis dit ça sans dire rien. Et quand on arrive là-bas, j'avais la boîte où il y avait le buste de Sarkozy. Et j'ai commencé à aller avec mon diable, avec la boîte. Et il y a le policier qui vient vers moi, vous ne pouvez pas passer par ici. Et je dis non, je dois passer, je dois être accueilli avec tous les honneurs. C'est ce que m'a dit M. Sarkozy. Il dit, mais vous ne voyez pas que vous avez un colis là, non? Ce n'est pas un colis, c'est le buste de Sarkozy. Mais je ne sais pas, à Paris, M. Sarkozy s'est appelé colis, je ne comprends rien du tout. Et Thomas Tourillon était à côté de moi, et je dis, Thomas, tu fais attention, parce que quand même, il y a quelques paroles en français que je ne sais pas dire. Et lui, il surveillait tout, que c'était pour me calmer, parce que je suis toujours nerveux.
Alors c'est incroyable, il fait passer pour son cousin.
C'est incroyable, oui. En fait, il m'a prémâché le boulot parce que c'est vrai que il y a souvent des suspicions envers les journalistes, ou en tout cas, on fait attention, faut donner des documents, faut faire des photocopies de carte d'identité, de carte de presse, faut prouver certaines choses. Et Osvaldo, avec sa tchatche naturelle, m'a fait passer, donc m'a fait gagner pas mal de démarches, aussi bien par téléphone que par courrier. Et finalement, l'Élysée était gagnant, puisque c'était un formidable reportage qu'ils ont pu avoir. Et puis, pour Moucron aussi, c'était quand même une belle chose d'avoir un artiste communal qui met en avant sa ville jusqu'au palais de l'Élysée.
Allez, on va écouter un autre artiste belge, c'est Philippe Lafontaine. Il chante le Venezuela, enfin à sa manière. Venez, venez, Zuela.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Venez, Venezuela, Philippe Lafontaine, le Venezuela. Nous y sommes avec nos Belges du bout du monde, Osvaldo Pariset et Lorenzo Labrique.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Est-ce que 22 ans de Venezuela, Laurent Labrique, ça change un homme, ça change son échelle de valeur?
Ah ouais, complètement. Hein. Ça, c'est effectivement, on apprend beaucoup à relativiser. On apprend beaucoup sur soi-même. On n'a pas trop le choix, surtout après beaucoup d'expériences, pas toujours très agréables ici dans le pays. Mais on devient effectivement une personne qui apprend à se plaindre beaucoup moins peut-être qu'on a en Belgique. On va dire que se plaindre du temps devient un luxe, par exemple. Mais je suis beaucoup plus une personne épanouie. J'aime le contact. J'étais une personne, enfin j'étais un enfant à l'époque, très très introverti. Maintenant, je pense être tout à fait le contraire. Il y a aussi un sens de l'humanité quand même qui est différent. Et puis surtout j'aime ici parce que en Belgique on va dire un peu que tout est fait. Ici au Venezuela tout reste à faire.
Au Venezuela le climat est différent, climat social aussi extrêmement tendu. Ce sont les perspectives un peu noires pour ce pays d'Amérique latine, Catherine Tonero.
Ben oui, et ce sont des scènes que l'on voit encore régulièrement hein, à la télévision, des Vénézuéliens qui font la queue devant les supermarchés. La pénurie touche aujourd'hui 80% des denrées de première nécessité. Les pillages, les émeutes sont presque quotidiens. Alors pour s'approvisionner, beaucoup de Vénézuéliens franchissent la frontière colombienne. Elle avait été fermée l'an dernier pour des raisons de sécurité. Le président a bien dû se résoudre à la rouvrir temporairement cet été. L'impopulaire Nicolas Maduro qui veut tout faire pour reporter la tenue d'un référendum révocatoire qu'il est sûr de perdre. Fonctionnaire limogé, figure de l'opposition arrêtée, le bras de fer avec l'opposition anti-chaviste est loin d'être terminé. Et c'est toute la démocratie vénézuélienne qui est en danger, estiment de nombreux observateurs. Sortir de cette crise économique et politique sans précédent est évidemment le principal défi qui attend le pays. Il y en a d'autres aussi. Le Venezuela est, on le rappelle, le pays au taux de criminalité le plus élevé d'Amérique du Sud. Pas de quoi attirer les touristes malheureusement, et ce malgré d'immenses richesses naturelles.
Oui, oui. Vous restez optimiste, Laurent Labrique, pour l'avenir de ce pays?
C'est une bonne question. J'ai envie de dire oui, parce que j'ai une fille qui vient d'ici, donc il faut que je reste optimiste. Mais on va dire que quand même c'est un pays qui traverse plus qu'une crise politique, sociale et économique. C'est un pays qui traverse une crise, je vais dire, de valeurs, et qui ne se fait pas, qui ne va pas s'arranger simplement avec le changement, je vais dire, de couleur du gouvernement.
Osvaldo, dans ces conditions-là, vous rêvez d'une retraite au pays natal ou bien vous allez couler des jours heureux encore en Belgique?
Moi, déjà, je félicite à Lorenzo d'avoir le courage de pouvoir rester à Venezuela et d'avoir sa fille qui est vénézuélienne belge. Mais moi, autant d'être vénézuélien, je peux dire que j'ai peur d'entrer dans mon propre pays.
Oui, même si vous rêvez d'aller sur la petite île de Morrocoy, par exemple.
Oui, la première chose que j'y ferai à Venezuela, c'est aller à la mer del Caraïbe. Mais Lorenzo, il peut dire Morrocoy, la isla de Margarita, c'est la cosa más bella que tiene el mundo.
C'est vrai, non?
Bueno, Morrocoy, c'est vraiment très, 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 très beau. Mais il y a aussi des îles un peu plus, je veux dire, au large, qui s'appellent l'archipel de Los Roques. Et ça, c'est quelque chose, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. C'est aussi l'avantage, vous voyez, de vivre à Caracas, c'est qu'on a un saut de puce de la mer. Ce n'est jamais qu'une demi-heure de route. Et ici, une demi-heure de route, c'est comme si on allait, je ne sais pas moi, passer d'une commune à l'autre à Bruxelles. Donc effectivement, ça c'est quand même un des grands avantages, avoir un climat très très agréable toute l'année qui te permet d'aller chaque week-end, comme le font beaucoup de Vénézuéliens, peupler certaines plages et les plus inconnues, comme d'habitude, sont toujours les plus jolies.
Confirmation, il fait beau à Maracaibo. En tout cas, c'est Julien Clerc qui nous le dit. Écoutez.
La radio dit qu'il fait beau à Maracaibo.
La radio dit qu'il fait beau à Maracaibo, la troisième ville du pays. Les saisons sont inversées. Vous allez rentrer dans le printemps, nous dans l'automne, Laurent ?
En fait, ce n'est pas les quatre saisons, c'est simplement saison sèche et saison des pluies. Donc actuellement, on est en saison des pluies, même si quand il pleut 20 minutes et puis après c'est ouais. Terminé, c'est la grosse chaleur. Jusqu'au mois de décembre, ça va être la saison, c'est la saison des pluies.
Et je voudrais faire une référence à Maracaibo, parce que Maracaibo, il a le fameux procédé Alonso de Ojeda. Et Maracaibo, c'est là qu'ils ont voulu choisir le nom de Venezuela. Venezuela vient de la Pequeña Venecia, la Pequeña Venecia.
Petite Venise.
Ouais. Et il est devenu de la Venecia, Venezuela.
D'accord. Bah écoutez, c'est le trait d'union entre votre pays, enfin le pays de votre papa, quoi, l'Italie, et celui du papa de Catherine Tenero aussi. Hein.
Exact.
Oui, que je remercie d'avoir participé à cette émission. Ça vous donne envie de partir au Venezuela.
Oui, j'ai eu l'occasion d'aller sur la côte caraïbe colombienne, tout près de la frontière, mais pas de la franchir, hein, donc malheureusement. Mais ce qui lui arrive est vraiment dommage, parce que c'est un pays qui, je pense, gagne vraiment à être visité.
Oui, on souhaite beaucoup de courage, Laurent, au peuple vénézuélien qui traverse des moments difficiles. On vous souhaite en tout cas bonne continuation là-bas. Au Venezuela. Merci d'avoir eu le courage de témoigner sur la première dans les Belges du bout du monde. Ben, je vous laisse échanger le mot de la fin avec Osvaldo qui est dans votre pays natal, Lorenzo, ici en Belgique.
Bueno, muchísimo gusto, Osvaldo. Espero que cuando yo vaya allá a Bélgica, podamos sentarnos y tomarnos una buena cerveza, une bonne bière à mon retour l'année prochaine. J'espère que rendez-vous est pris avec ça.
Yo, como venezolano, la bienvenida en tu país, Bélgica. Y tomarnos un bière ensemble, la meilleure bière del mundo. Il y a plus de 800 marques de bière en Belgique.
Merci, et puis soyez les bienvenus. Si vous voulez venir au Venezuela, c'est un pays qui en vaut la peine, c'est un pays authentique. Magnifique, sur plein de plans. Il y a quand même toujours moyen de le découvrir en toute sécurité avec quelqu'un qui s'y connaît. Je serai avec plaisir le guide, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, merci de m'avoir invité pour cette émission.
Mise en onde par votre ami d'enfance, Paul Michel. Oui, le monde est un village. Hasta luego, amigo.
Hasta luego.
La semaine prochaine, nous serons en Chine avec une nouvelle Belge du bout du monde, Morgane Delès. Elle sera en duplex avec le journaliste Hun Liu, correspondant au Benelux pour plusieurs agences chinoises d'information. Après le journal parlé de 10h, les décodeurs RTBF en compagnie d'Alain Gerlache. Podcast.